Les coqs chantent et jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'agriculture de conservation avec les responsables et les techniciens de l'Association pour la promotion d'une agriculture durable ou APAD. Nous avons donc un problème, la dégradation des sols, et une réponse, l'agriculture de conservation. C'est bien connu en agriculture, le sol est le premier facteur de production. Problème, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, estime que 33% des sols à l'échelle mondiale sont dégradés. Plus spécifiquement en France, 15 millions de tonnes de terres arables sont perdues chaque année. Un centimètre de sol met 150 ans pour se former et 10 minutes pour disparaître. Ce n'est pas tout. La population augmente donc autant de bouches à nourrir, alors que la dégradation des sols s'accélère partout. On estime qu'en 1960, on disposait de 0,33 hectares agricoles par personne. Aujourd'hui, ce chiffre est de 0,16 hectares par personne. Voilà l'énoncé du problème, maintenant la solution. La solution préconisée par les acteurs que nous avons rencontrés, c'est l'agriculture de conservation des sols. Un peu d'histoire. Les agriculteurs américains ont fait face au début du XXe siècle à un phénomène de forte érosion éolienne. Les sols nus et secs étaient balayés par le vent. La couche de terre arable se réduisait d'année en année. Les agriculteurs brésiliens ont vécu une situation similaire. Après défrichement, les sols agricoles perdent leur matière organique très rapidement sous l'effet de la charrue et du climat agressif. La pluie provoquait une forte érosion hydrique, des millions de tonnes de terre étaient lessivées. L'abandon du travail en profondeur du sol est apparu comme la seule issue face à ces constats. Puis on est arrivé à la technique dite agriculture de conservation des sols. En France, c'est le credo de l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, une association créée en 1998 à l'initiative des agriculteurs. Benoît Lavier, agriculteur en Côte d'Or, est le président national de cette structure.
On a en France, dans certaines régions, des gros problèmes d'érosion notamment, avec des pertes de sol importantes, des coulées de boue. Mais il y a un peu partout en France une perte de matière organique, des sols qui du coup sont moins fertiles, se tiennent moins bien, et puis aussi une perte de biodiversité. Donc le sol est fragile, il faut vraiment le préserver, le conserver.
Si j'ai bien compris, il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Il y a les propriétés mécaniques d'abord du sol.
La texture du sol, oui, effectivement, les sols, il y a une grande diversité de sols en fonction de leur texture, l'argile, les sables, les limons, ce qui fait que chaque sol est unique, il n'y a pas de recette toute faite.
On a dit qu'il y a une grande biodiversité dans le sol. Bon, biodiversité, nous on ne le voit pas, mais c'est des micro-éléments qui sont là.
Alors, effectivement, hein, on dit que dans une cuillère à café de sol, il y a l'équivalent de peut-être 7 milliards d'individus, il me semble, quelque chose comme ça, avec beaucoup de bactéries, de champignons, d'insectes du sol. Nous, on voit beaucoup les vers de terre et c'est important de les préserver, mais il y a toute une microfaune aussi qui est très abondante et qui a besoin d'être nourrie et protégée.
Et toute cette biodiversité joue dans la fertilité d'un sol.
Absolument, elle joue dans la fertilité des sols et notamment dans les cycles, les grands cycles géochimiques du carbone, de l'azote et de l'eau. Ils ont un impact très important.
Je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez dit que le labour, le travail du sol, c'est comme si on ajoutait les tremblements de terre, les typhons, les tsunamis et tout ça en même temps.
Oui. C'est ça. On détruit par le travail du sol l'habitat et les habitants en retournant le sol, en le mélangeant. C'est comme si on cassait la maison, votre maison, régulièrement avec une pelleteuse. Donc au bout d'un moment, vous vous découragez si vous n'êtes pas enfoui sous les décombres.
Et ça joue sur les rendements agricoles.
Forcément, quand le sol est moins vivant, moins fertile, il y a effectivement une perte de production. Et c'est ce que certains agriculteurs commencent à observer dans certaines régions de France, avec des gens qui se disent je vais être obligé peut-être d'abandonner certaines productions parce que mes sols sont épuisés et plus assez vivants.
Il y a la grave question de l'érosion et de lessivage des sols.
Alors l'érosion est un facteur qui, en France, est parfois cantonné à certaines régions uniquement, mais en fait on en trouve un peu partout. Dans certaines régions, le phénomène est très grave, avec des pertes importantes de terres qui peuvent aller jusqu'à, selon certains épisodes pluvieux, jusqu'à 80 ou 100 tonnes de terre même à l'hectare et par an. Et quand on perd 100 tonnes de terre à l'hectare, ça entraîne des conséquences désastreuses en termes de fertilité du sol.
Le problème pour vous, agriculteurs, c'est que quand il y a érosion, c'est la bonne terre qui s'en va.
Absolument, absolument, c'est la bonne terre qui s'en va, avec les éléments fertiles, avec la matière organique, parfois avec des engrais et peut-être des produits phytosanitaires qui sont avec. Donc l'intérêt de l'agriculteur, c'est de faire en sorte que l'eau ne ruisselle pas et qu'elle s'infiltre dans le champ. Et pour faire ça, il ne faut pas faire de terre fine, il ne faut pas travailler le sol, il faut le couvrir en permanence pour le protéger de l'action mécanique des gouttes de pluie.
Il y a aussi l'érosion par le vent. On a vu des nuages de poussière tout à l'heure.
Quand les agriculteurs travaillent le sol, il y a parfois des nuages de poussière qui peuvent être assez impressionnants, oui.
Ce que vous préconisez, c'est qu'on arrête d'agresser le sol.
C'est tout à fait ça, arrêter d'agresser le sol, le perturber le moins possible et au contraire le nourrir et le protéger avec une couverture permanente du sol. C'est bon pour le sol, pour ceux qui l'habitent, voilà.
C'est-à-dire que par exemple quand je récolte, je peux semer un couvert végétal après.
Concrètement, c'est ce que je fais moi sur ma ferme, le jour de la moisson ou le lendemain. Je me dépêche de semer un couvert végétal qui est composé de plusieurs espèces que je vais implanter, notamment il y a beaucoup de légumineuses mais pas que, pour couvrir le sol et le protéger, le nourrir.
Protéger le sol, c'est-à-dire qu'il y a divers avantages. Le système racinaire de ce couvert là stabilise le sol et quand il pleut, au lieu que ça ruisselle, ça pénètre.
C'est tout à fait ça. Les racines et le travail des vers de terre vont créer une porosité verticale qui va favoriser l'infiltration de l'eau quand il pleut. Et du coup, ça, c'est tout à fait favorable à l'évacuation de l'eau et à la lutte contre l'érosion.
Là, il y a un problème psychologique dans votre affaire parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait un champ propre, d'où le travail du sol. Et si vous dites d'abandonner ça, pour franchir le seuil, c'est difficile.
Je confirme que c'est effectivement difficile. La culture agronomique est beaucoup basée sur le travail du sol. Et effectivement, pour avoir vu et travaillé avec mon père, un bon sol ou un bon travail, c'est quand le sol est nu et qu'on voit pousser les petites graines et uniquement elles qu'on vient de planter. Or, il faut changer sa perspective, faut changer les mentalités, changer la culture. Un sol qui est vivant, qui va bien, c'est un sol dans lequel il y a beaucoup de diversité, un sol qui est couvert, et il y a un vrai changement de perspective à opérer.
Alors on va revenir à votre organisation, la PAD, comment c'est structuré ?
La PAD est organisée avec une fédération nationale et puis des associations régionales qui sont là pour accompagner les groupes d'agriculteurs qui veulent se lancer dans cette agriculture de conservation des sols pour leur proposer l'animation de leur groupe, des formations, les encourager, apporter le support logistique qui permet d'échanger les expériences et de les rassurer.
Est-ce que vous avez des partenaires ?
Nous avons des partenaires, notamment une école d'agriculture qui forme des ingénieurs, notamment un réseau de développement qui s'appelle TRAM, d'autres qui sont en cours, notamment les agences de l'eau qui s'intéressent de près à nos pratiques agricoles à cause de la lutte contre l'érosion et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Il y a ce qu'on observe, nous, au champ. Maintenant, pour aller plus loin, c'est de réussir à mettre des preuves scientifiques. Mais ça devrait se produire dans les années qui viennent parce que nous avons un certain nombre de projets en cours pour documenter ces bénéfices.
Du point de vue financier, est-ce que vous avez une aide ou bien il n'y a pas d'aide à la reconversion comme dans d'autres domaines?
Alors les aides, elles viennent du fait de démarcher justement les collectivités territoriales et de leur dire si vous êtes d'accord avec nous pour dire que cette agriculture, elle mérite d'être encouragée, eh bien il faut aider nos structures et c'est ce qui fait que notamment avec les agences de l'eau mais certains conseils régionaux, on peut obtenir des subventions qui nous permettent d'avancer. Et le ministère de l'Agriculture nous aide aussi un petit peu.
Je vous remercie.
Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur aussi.
Le slogan de l'association pour la promotion d'une agriculture durable, c'est « Laisser vivre nos sols ». Dans les faits, l'agriculture de conservation des sols repose sur trois piliers. D'abord, l'abandon du travail du sol, dans l'objectif de limiter la perturbation mécanique du sol lors du semis, en supprimant le travail du sol réalisé par des outils métalliques qui détruisent les vers de terre, leurs galeries et la structure du sol créée au fil des années. Deuxièmement, la couverture permanente des sols. Étant couvert toute l'année, le sol est protégé physiquement, il conserve son humidité et l'érosion est limitée par les racines ancrées au sol. Enfin, troisièmement, le semis direct et la rotation des cultures, qui est une technique connue depuis fort longtemps. Sarah Singla est agricultrice dans l'Aveyron, sur une exploitation en agriculture des sols depuis plus de 37 ans.
Plus on va aller, plus on est en train de perdre de la surface agricole utile. Donc ça signifie qu'à l'avenir, il va falloir absolument qu'on préserve, mais surtout qu'on régénère les sols, pour d'une part qu'on puisse continuer de produire, de se nourrir, mais aussi pour laisser à nos enfants quelque chose sur lequel ils pourront continuer à se nourrir. Donc on a le devoir de régénérer le sol, qui est notre principal outil de production, pour les générations futures. Donc si la superficie cultivable diminue et la population augmente, ça veut dire qu'il va falloir qu'on intensifie la production. Mais aujourd'hui, on voit que c'est possible puisqu'on a des cas, que ce soit en France ou à l'étranger, pour vous montrer qu'on arrive à produire deux fois par an sur la même parcelle. On arrive à cultiver beaucoup plus, on intensifie la production et on produit plus aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité.
Alors vous avez été sans pitié pour nous, vous avez dit que si on regarde l'histoire, chaque civilisation agraire a subsisté maximum 500 ans, le temps de détruire les sols.
Oui, en fait, c'est l'histoire qui nous montre ça. Il n'y a aucune civilisation agraire qui a vécu plus de 500 ans. À chaque fois qu'une civilisation a détruit son sol, elle s'en allait un peu plus loin et puis elle réétablissait sa civilisation plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, étant donné que la surface agricole utile est en train de diminuer, on ne peut plus se permettre de dire « après nous le déluge, on partira ». On est obligé de préserver, de régénérer le peu de sol qui nous reste.
Alors, au niveau de l'érosion aussi, vous avez dit qu'il y a une perte de 5,6 tonnes par hectare.
On perd 5,6 tonnes à l'hectare. Ça, c'était une étude qui avait été menée dans mon département. Mais on perd de la terre tous les jours à cause de l'érosion. Et la principale menace qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment l'érosion, que ce soit l'érosion éolienne avec le vent ou l'érosion hydrique quand l'eau tombe sur le sol. Et la seule façon de lutter contre l'érosion, c'est d'avoir des plantes vivantes en permanence sur les sols.
Là, il y a un problème. Moi, j'étais au Maroc dernièrement quand on a parlé de culture sans labo. Psychologiquement, j'ai eu du mal à l'admettre.
Oui, parce que c'est aussi, au-delà d'une évolution en agriculture, c'est surtout une révolution. Il faut accepter de travailler différemment. Ça demande d'avoir de nouveaux repères, d'apprendre et de réapprendre tout ce qui est agronomie, fonctionnement du sol. Donc, il y a tout un changement à adopter.
Il y a le couvert végétal, vous avez dit, il y a les rotations.
Le principe de la rotation, c'est de ne pas faire d'une année sur l'autre la même culture ou une espèce qui soit la même d'une année sur l'autre.
C'est-à-dire que les essences ne vont pas puiser les nutriments au même niveau dans le sol. C'est pour ça qu'il faut faire la rotation.
C'est aussi pour ça, puisque les systèmes racinaires sont différents. Donc il y a certaines racines qui vont puiser les éléments minéraux dans les premiers centimètres, d'autres qui vont être capables d'aller chercher les éléments minéraux en profondeur pour les ramener en surface. Et il y a une synergie en fait qui va s'opérer entre tous ces systèmes racinaires au niveau du sol.
Alors là, il y a la technique du semis direct. En quoi ça consiste? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est.
Donc la technique du semi-direct, elle consiste à copier la nature. La nature, elle n'a jamais travaillé un sol, la nature, elle n'a jamais labouré, mais il y a des plantes. Donc dans notre technique, on met en place une graine dans une culture qui est déjà en place, qu'on appelle un couvert végétal.
Donc on fait un poquet et puis on met la graine, c'est tout.
Voilà, c'est ça. Et après, le couvert végétal meurt et notre graine va pousser et ensuite on va récolter. On copie la nature.
Le couvert végétal, il va mourir naturellement ?
Donc le couvert végétal, on va le détruire, ou alors on peut aussi le récolter. Si jamais il y avait quelqu'un qui... On peut l'avoir soit en récolte comme une culture, ou alors avoir des animaux qui vont pouvoir pâturer ce couvert végétal.
Bah, le risque, c'est que si j'ai mis ma culture dedans, il va être pâturé aussi.
Non, parce qu'on pâturera le couvert végétal juste avant de mettre en place la culture.
Alors, vous avez aussi parlé de la photosynthèse.
Oui, donc la photosynthèse, c'est ce que les plantes font pour pousser toute l'année. Et grâce à la photosynthèse, on va aussi pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, puisque la photosynthèse, c'est lorsque la plante va combiner le CO2 et l'eau pour faire des sucres. Et tous les sucres qu'elle va former au niveau des feuilles, c'est le processus de la photosynthèse, elle va ensuite les envoyer dans les racines.
C'est quoi vous appelez les exudats ?
Voilà, les exudats racinaires. Ce sont les sucres issus de la photosynthèse qui vont nourrir la vie du sol, qui va participer à avoir un sol qui fonctionne correctement.
Un sol qui fonctionne, c'est-à-dire que la biodiversité, tout ça, ça fonctionne ?
Ça veut dire un sol qui fonctionne, il y a énormément de biodiversité. Ça veut aussi dire qu'on va pouvoir continuer de produire plus et mieux. Ça veut vouloir dire aussi que l'eau va s'infiltrer correctement dans les sols et elle ne va pas du tout ruisseler. On va avoir des sols qui sont performants.
Le souci premier de l'agriculteur, c'est son rendement. Est-ce qu'on garde le rendement constant ? Ça diminue ? Est-ce que ça a la même qualité ?
Donc en termes de rendement, soit on est stable ou on augmente, mais après, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est pas uniquement le rendement, on regarde la marge qu'on fait à l'hectare. Pour ceux qui veulent faire la transition, ils produisent un tout petit peu moins. Étant donné qu'ils ont beaucoup réduit, ils ont énormément réduit les charges de structure, ils ont une meilleure marge à l'hectare. C'est ce qui fait qu'ils s'en sortent mieux. Sur le long terme, on arrive à produire autant, voire plus, que ce qu'on faisait par le passé.
Ce que vous êtes en train de me dire, madame, c'est qu'au début, j'apprends en marchant, mais au fur et à mesure que je maîtrise la technique, je pourrais augmenter les rendements.
Voilà, c'est tout à fait ça. Au début, on apprend en marchant et à la fin, on termine à faire des courses du 100 mètres haies. Et là, c'est exactement pareil.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Nicolas Naudet est agriculteur dans l'Essonne depuis 2013 sur une exploitation de 105 hectares. Dès le départ installé en agriculture de conservation des sols, il est à l'initiative de la création de la PAD du Sud Bassin Parisien en 2014.
Je suis céréalier et betteravier, donc des céréales, du colza, de l'orge et plein d'autres choses, voilà.
Alors vous avez quitté le conventionnel pour adopter l'agriculture de conservation ?
Tout à fait, en fait. J'ai entendu l'information sur Internet, sans doute sur des vidéos que j'avais trouvées sur Internet et des articles après que je me suis documenté. Ouais.
Donc vous avez vu ça et ça vous a intéressé ? Vous avez dit je vais franchir le pas, mais est-ce que ça s'est fait immédiatement ou bien il y a eu un temps d'hésitation ?
Alors non, j'y suis pas passé immédiatement, je me suis formé, j'ai pas mal échangé, j'ai fait beaucoup de kilomètres aussi pour rencontrer des agriculteurs qui étaient dans ce système-là, et ça a pris quand même plusieurs années avant de me lancer.
Vous avez commencé à quelle année ?
J'ai commencé en 2014.
Et les débuts ont été comment ?
Plutôt bon, parce que j'ai pas eu de déconvenues, à part les quelques erreurs que j'ai provoquées moi-même, on va dire, du coup, qui ont des bêtises, quoi.
Quel genre d'erreur ?
Alors au début, oui, donc c'était avant que j'achète le matériel, donc mon semoir adapté au semi-direct. Comme j'ai effectué les travaux avec mon matériel existant sur la ferme, donc j'étais obligé de travailler le sol sur quelques centimètres. Du coup, je me limitais à 5 centimètres.
Mais on a dit que 5 centimètres, c'est déjà critique.
Oui, en effet. En fait, la plus importante vie qui se passe dans le sol se situe aux 2-3 premiers centimètres. Et tous les échanges entre le sol et l'air créent toute cette faune et cette vie du sol.
Est-ce que quand vous avez commencé, les agriculteurs voisins, ils vous regardaient pas avec un sourire ?
Non.
Mais ils étaient sceptiques quand même.
Oui. Et certains le sont toujours, je pense.
Ah, ils le sont toujours ?
Certains, oui, il y a des chances. Culturellement, c'est pas anodin d'arrêter de travailler le sol. Ouais.
Donc après, il a fallu vous équiper ?
Il a fallu m'équiper, oui. Il a fallu que je revende tout le matériel qui ne me servait plus, en fait, tout le matériel de travail du sol, et d'acheter un semoir spécifique qui est capable de travailler, enfin de faire juste un sillon pour y mettre une graine et refermer le sillon.
Alors, vous pouvez nous décrire ce semoir, parce qu'un semoir, je connais, mais si vous dites qu'il est spécifique.
Oui, en fait, c'est tout simplement un simple disque qui ouvre le sol, dépose les graines, et ensuite, il y a une roulette de rapu qui referme ce sillon. Et du coup, après le passage du semoir, on ne se rend même pas compte que le semoir est passé, que le sol a été travaillé.
Mais vous arrivez à faire ça dans les mauvaises herbes, en fait, dans le couvert végétal ?
Oui, tout à fait. En fait, le disque est tranchant et du coup coupe la végétation.
Entre deux saisons de culture, on ne laisse pas le sol nu, on met en place un couvert végétal. avant les semis la saison suivante, on passe un rouleau qui va écraser sous couvert végétal. Après quoi, on passe sur ce mois dit spécifique. La difficulté ici, c'est de pouvoir aider la plante cultivée à grandir.
Du fait de ne plus travailler le sol, on va enrichir le sol mais comme avec du compost qui serait déposé sur le sol, avec les plantes de couverture en se décomposant. En fait, vont enrichir le sol et du coup, ce sol plus enrichi va nourrir les plantes qu'on va produire.
Mais est-ce que cette technique de culture de conservation, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de cultures?
Alors, il est tout à fait possible d'utiliser cette technique pour toutes les cultures. Il faudra juste se modifier et ajuster au mieux pour la culture, pour le type de culture et le type de racine. Principalement, si on prend des tubercules ou des racines, il faudra adapter le système. Mais on peut toujours utiliser des couverts, etc. pour nourrir le sol.
Alors, un autre problème, si vous cultivez de la betterave, à la récolte, quoi que vous fassiez, vous remuez le sol.
Plus ou moins, ça dépend du matériel adapté, enfin du utilisé. Il y a des machines qui remuent tout simplement le rang de la betterave. Après, je suis d'accord que les machines utilisées pour la récolte des betteraves ont des poids à la limite du raisonnable, en tout cas pour le sol.
Ça peut aller jusqu'à combien de tonnes?
Si je ne me trompe pas, ça peut aller de 50 à 60 tonnes maximum.
Ah oui, ça passe pas sur un sol sans dommage.
Voilà, il me semble que c'est même le poids qui est non autorisé sur route, mais qu'on va se permettre d'utiliser dans les champs.
C'est-à-dire qu'au début, la machine est vide, mais plus on charge de betteraves, plus...
Voilà, c'est le poids à charge forcément de betteraves. Donc, ce qui représente 50 tonnes, on n'imagine pas le sol après un passage de cette machine. Mais d'enrichir le sol des racines, des couverts végétaux, en fait, on va améliorer la structure du sol qui deviendra plus résistante au tassement, en fait, de ces grosses machines.
Mais quand même, il faut ouvrir le sol pour ramasser la betterave.
Oui, on ne peut pas. il reste des, enfin, en tout cas pour la betterave, voilà, et la pomme de terre, on est obligé de travailler un petit peu le sol, oui, effectivement.
Je vous ai écouté, vous m'avez dit que dans votre région, vous aviez commencé à 7 il y a quelques années et aujourd'hui vous êtes une trentaine.
La création de l'association, on était 7 agriculteurs réunis. Et
c'était en quelle année?
C'était fin 2014 et là, en début 2017, nous sommes une bonne trentaine, entre 30 et 35.
En 3 années, vous avez une telle progression?
Il y a de la demande. On voit que les agriculteurs s'intéressent à ce système-là. Bon, la conjoncture actuelle de l'agriculture y participe aussi.
Expliquez-moi ça.
L'année 2016, comme vous le savez, a été assez difficile pour les agriculteurs.
Je sais que dans le blé, il y a eu des soucis.
Voilà, au niveau économique, c'est assez difficile pour tout le monde. Ce système-là permet de moins dépenser pour produire et du coup, être un peu plus d'améliorer la marge, en fait.
Expliquez-moi ça.
Tout simplement, si on retire le travail du sol, donc l'énergie, que ce soit la consommation de carburant, mais aussi le prix des matériels pour travailler tout ce sol, on dépense tout simplement moins d'argent pour produire sur un hectare de culture.
Est-ce que vous arrivez à produire autant?
À l'heure actuelle, moi je débute encore dans le système. Pour certaines cultures, oui, je produis autant. Pour d'autres, il y a une petite baisse de production à l'heure actuelle, qui j'espère sera vite comblée. Et normalement, on sera comblé. Et je pense, et normalement, j'aurai une hausse de production dans quelques années sur certaines espèces aussi.
Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Parce que mon sol va s'améliorer, va s'enrichir et donc retransmettra et permettra aux productions de produire, je pense, un petit peu plus.
Ah, ça veut dire qu'au début, bon, il faut avoir le courage de se lancer, mais au fur et à mesure qu'on améliore son sol, ça va aller.
Oui, le temps que le sol retrouve sa structure verticale et retrouve sa fertilité plus naturelle et moins chimique, elle permettra un gain de production.
Vous voyez quand même que cette conversion, ce genre de nouvelle façon de produire, il faut comme une formation.
Oui, surtout ne pas se lancer seul. C'est très risqué de partir seul, de ne pas échanger, de pas, parce qu'on peut facilement aller à l'échec.
C'est pour ça que vous avez pris le temps d'aller à gauche et à droite, de vous documenter, d'aller voir ce qui se passe.
Oui,
Il est important de pas mal se déplacer, d'aller à la rencontre d'autres agriculteurs qui sont dans ce système-là, pour se former, pour échanger, et pour comprendre aussi que c'est pas parce que ça fonctionne chez quelqu'un d'autre que ça fonctionnera pas chez moi, parce qu'on va se rendre compte qu'au final, tous les agriculteurs qui travaillent dans ce système-là ont les mêmes... lignes de conduite, mais seulement elles ont adapté quelques petites choses chez eux pour que ça fonctionne. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que ça peut fonctionner aussi chez soi.
Et c'est pour ça que vous envisagez de créer un GIE.
Alors, il n'est pas envisagé, il est déjà créé.
Ah, il est déjà créé.
Oui, il est créé depuis 2015.
Je précise que c'est le groupement d'intérêt économique et environnemental.
Exactement, donc c'est un groupe qui permet une reconnaissance en fait d'un groupe de travail d'agriculteurs. On travaille sur cette thématique-là, sur améliorer les petits points qui sont encore à améliorer dans le système. Donc trouver des variétés les plus adaptées, parce que la recherche à l'heure actuelle a été orientée sur de l'agriculture conventionnelle, et là comme on est sur une nouvelle voie de production, forcément les variétés les plus adaptées sont pas forcément connues à l'heure actuelle.
Ah, donc le GIE, ça permet de discuter, d'échanger les expériences, et comme on est agriculteur, on parle le même langage.
Oui, tout simplement, ça permet de se regrouper, d'échanger et de parler technique et de parler entre agriculteurs. Mais aussi, on prévoit chez nous, en tout cas, de communiquer vers du grand public, donc avec des termes moins techniques, pour vous faire découvrir ce système agricole.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous étions en compagnie des responsables et des adhérents de l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, un groupement d'agriculteurs qui œuvre pour la diffusion et le développement de l'agriculture de conservation des sols en France. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Baptiste Collignon, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.